Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Dès mon arrivée aux grandes galeries, j'ai tout de suite compris qu'un grand magasin n'est pas seulement un lieu de vente où l'on trouve de tout. C'est également, et même totalement, une entreprise qui rassemble une grande diversité d'individus. Aujourd'hui, les hommes et les femmes doivent s'associer. L'esprit d'entreprise doit les aider à s'élever toujours plus haut. Ensemble, la main dans la main, ils vont aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et relever les challenges de l'avenir d'aujourd'hui. C'est un devoir d'être heureux. Et demain, aux grandes galeries, nous connaîtrons l'osmose.
Vous souriez, vous relâchez, vous souriez, vous relâchez. Et attention, le mental. Le mental, les yeux.
Maintenant, les gens se connaissent. Avant, c'était un bazar compliqué. Moi, j'ai dit halte là, les choses sont simples. Dans une grande entreprise comme la nôtre, on ne peut plus agir sans esprit de corps, sans souci de communication.
Bonjour à tous. Voilà, un petit plaisir. Écoutez Fabrice Lucchini, c'est un film de Cédric Lapiche qui s'appelle Rien du tout. Et on voit à travers la voix de Lucchini une conception, tous les mots de l'entreprise d'aujourd'hui, j'allais dire MOTS et peut-être aussi MOX, les mots d'une certaine entreprise qui se veut moderne et humaniste, voilà, avec beaucoup de guillemets. Alors pourquoi cet extrait de film ? Bon, un petit plaisir d'abord, mais parce que nous allons aujourd'hui évoquer la rentrée sociale et notamment la question d'entreprise avec Joseph Toumenel, vice-président de l'SFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Bonjour Joseph Toumenel.
Bonjour.
Toujours un plaisir, Lucchini, hein. C'est assez extraordinaire. Alors justement, tiens, on est en train de voter la loi PACTE, qui est la loi sur l'entreprise, la croissance et la transformation des entreprises. Alors, on va peut-être parler directement de ça par rapport à la voix de Lucchini, parce que, dans le fond, est-ce que c'est une loi qui vous satisfait ? Si on regarde... Alors, c'est une loi fourre-tout, il faut bien dire, entre nous, soit dit.
C'est une loi fourre-tout, Philippe Arondel, 70 mesures.
Voilà, on y trouve tout et n'importe quoi, et le contraire. Mais alors, je dirais qu'il y a quand même deux axes. Il y a sans doute peut-être un axe qui ne va pas vous plaire, un axe qui vous plaît. On va prendre peut-être l'axe qui va vous plaire, c'est qu'on prétend quand même aller... Alors, non pas une co-gestion à la française, ça me paraît un peu excessif, mais en tout cas, on imagine donner plus de pouvoir aux salariés d'entreprise, notamment à travers les conseils d'administration. Alors, ça vous paraît positif, c'est pas assez
Vous avez raison, on imagine.
D'accord.
Si je compare la France et avec notre principal partenaire commercial et celui qui est un pays développé comme le nôtre, enfin assez similaire, qui s'appelle l'Allemagne, je note qu'en Allemagne, dans les conseils d'administration, à partir de 3000 salariés, la moitié du conseil d'administration est constituée de syndicalistes.
Ouais.
Non pas de salariés élus par l'entreprise, ça peut être le cas, mais des... administrateurs désignés par les organisations syndicales.
Ouais.
Et pour les entreprises à partir de 300 salariés, c'est un tiers.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la cogestion à l'allemande. Ils ont compris qu'il fallait associer à la fois le capital légitime qui finance l'entreprise, mais à la fois la force de travail, les salariés et leurs représentants, pour être efficace. Puisqu'on note quand même que, je regarde l'industrie allemande, elle est quand même assez efficace. En France... c'est epsilon, c'est-à-dire que c'est un petit progrès, mais on ne va pas jusqu'à dire arrêtons la lutte des classes permanentes qui nous emmène dans le mur et associons, travaillons ensemble. Et pour la CFTC, pour le syndicaliste chrétien que je suis, l'entreprise c'est d'abord une communauté humaine. Alors travailler ensemble, ça va jusqu'à aussi dire que l'on travaille à regarder l'entreprise que l'on construit pour demain. C'est ça, un conseil d'administration. Évidemment, dans une entreprise, il est normal qu'il y ait un chef d'entreprise qui prenne des décisions. Il ne s'agit pas de gérer à sa place. Il s'agit d'ensemble, dans les conseils, dans les grosses entreprises, réfléchir à l'avenir de l'entreprise et ensemble à décider des axes stratégiques pour demain. Ça ne se fait pas en France. Il y a une petite ouverture, mais on avait aussi une petite ouverture... sous le président Sarkozy, ça reste epsilon quand même.
Par rapport à ce que vous demandez.
Par rapport à la réalité et surtout par rapport à la nécessité.
Ouais. Est-ce que ça, il n'y a pas autour de ce débat, j'ai lu dans la presse, notamment avant l'été, il y a eu un débat absolument, je dirais, surréaliste autour de la notion d'objet social. On va changer, paraît-il, dans l'article du Code civil et on pourra De façon, d'ailleurs, c'est pas automatique, on pourra choisir d'avoir un nouvel objet social. Et alors là, on a vu fleurir dans la presse des tribunes, je dois dire, absolument extraordinaires. Il y avait une tribune tout à fait modérée qui demandait d'ailleurs qu'on mette le bien commun dans la Constitution. Alors ça, c'est un autre débat. Mais alors surtout, on a vu le patronat monter au créneau en disant, c'est épouvantable, si on change les articles du Code civil, c'en est fini. Et il y a même une tribune qui est parue dans Le Monde avec des intellectuels, je citerai pas les noms des intellectuels parce que ça serait absolument... Et qui disait, mais ça, si jamais on fait ça, et si on met en avant un peu la notion de bien commun, vous rendez compte, c'est 1793, c'est Karl Marx, dans le fond. Donc, d'une certaine façon, il y a beaucoup de gens, intellectuels ou une partie du patronat, qui refusent l'idée même qu'il pourrait y avoir autre chose que le profit dans l'entreprise. Ouais. Alors, voilà. Ce débat, il est pas nouveau, mais il ressurgit périodiquement.
Voilà, Philippe Arandel, vous avez raison. Que dit le Code civil, qui date quand même, cet article, date de Napoléon, premier.
Hein. Oui.
Que dit-il? Il dit que l'entreprise ne peut avoir qu'un seul but, un seul, le profit.
Ouais.
D'autres disent il faut faire... Faut changer le code civil pour permettre aux entreprises de pouvoir dire j'ai un autre but.
Si elles le veulent d'ailleurs, c'est pas obligatoire.
Bien sûr, si elles le veulent.
Non, mais voilà, bon, donc,
vous prenez une entreprise comme Michelin, vous prenez une entreprise comme Danone.
Ouais.
Michelin et Danone, bien légitimement, pour se développer, ont besoin de faire du profit. Très bien. Mais dans le même temps, les dirigeants de ces entreprises nous disent, moi, avec l'entreprise, je veux faire autre chose. Je veux apporter du bien-être. Je veux apporter du bien-être à mes salariés, mais nous considérons que notre entreprise a aussi un rôle pour le bien commun dans la collectivité et je veux participer à des opérations qui vont dans le sens du bien commun. Mmh. Eh bien, c'est illégal. C'est-à-dire que très concrètement, des actionnaires américains de ces entreprises. Alors pour Michelin, impossible parce que Michelin garde son capital au sein de la famille, mais qui porterait plainte aujourd'hui en disant « Mais pas du tout, moi, l'argent que je mets dans l'entreprise est uniquement pour faire du profit. Quand vous me dites que vous l'utilisez pour faire autre chose que du profit, vous êtes dans l'illégalité, eh bien devant les tribunaux, ces actionnaires gagneraient. » Ça paraît du bon sens de changer les choses, surtout pour réaffirmer ce principe social chrétien de base, que le profit est un moyen et non pas un but. Et aujourd'hui, le Code civil nous dit le but de l'entreprise, c'est gagner du pognon. Eh bien, ça, c'est mortel pour tout le monde.
Ouais. Alors, c'est quand même un débat qui peut paraître un peu étonnant, c'est moins qu'on puisse dire, parce que le même patronat, enfin, peut-être pas tout le monde, faut pas attaquer le patronat bien en tête toutes les tendances, mais le même patronat n'arrête pas de dire regardez ce qui se passe en Allemagne, par exemple. C'est ça qui est assez étonnant, aucune contradiction. Ce sont les mêmes qui disent regardez du côté de l'autre côté du Rhin, ça marche tellement bien, on est nul, et là, quand on leur dit si on pouvait prendre la cogestion, là, c'est mauvais. Donc, je veux dire, ils prennent ce qui les intéresse, dans l'Allemagne,
Vous avez raison, Philippe Arandel, de dire une partie du patronat, c'est comme si on disait les syndicats, aujourd'hui les syndicats sont en grève et dans la rue, c'est pas vrai, certains d'entre eux.
D'accord.
Et c'est pas tout le patronat, de là, mais c'est sans doute une partie dominante du patronat qui est dans la financiarisation à outrance, cette financiarisation qui nous fait tant de mal, qui nous a fait tant de mal, nous en France et sur l'ensemble de la planète. Je connais bien des chefs d'entreprise qui ont une autre démarche et une autre vision, sauf qu'aujourd'hui, le Code civil leur interdit de dire « mon entreprise, elle est là, j'emploie le profit comme un moyen, mais ce n'est pas le but ».
De toute façon, on va voir. Il y a deux articles qui vont changer, je crois, 1133, 1136. On verra ce que ça donnera après. On fera une analyse après coup, on verra. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, parce que ça a un lien, bien sûr, avec l'entreprise, c'est le problème du chômage de masse, et de la convention de l'UNEDIC, alors qui va être, finalement, tous les partenaires sociaux, si j'ai bien compris, ont tous accepté de négocier. Voilà. À partir d'une lettre de cadrage qui a été envoyée par le gouvernement, il va y avoir une négociation qui va s'engager. Vous êtes d'accord, je me trompe pas.
Et vous avez raison. Et heureusement que les partenaires sociaux disent on est d'accord pour négocier, parce que il y a que deux solutions, vous savez, dans ces cas-là. C'est la guerre ou la négociation. Personnellement, comme d'autres, je préfère la négociation. Puisque c'est le gouvernement qui gouverne, qui prend des décisions avec l'autorité de l'État et avec l'aide du législateur, et qui peut imposer un certain nombre de choses. Ouais. Donc évidemment, pour la CFTC, comme pour les autres, on va aller en discuter, on va aller faire valoir nos arguments, dire ce qui nous déplaît. Et ce qui nous déplaît d'ailleurs fortement dans les annonces du gouvernement et du président de la République, c'est que on est en train de faire disparaître les corps intermédiaires. C'est-à-dire que cette gestion paritaire de l'UNEDIC, c'est-à-dire paritaire, c'est patronat syndical, d'abord, n'est pas une mauvaise gestion. Quand je regarde les résultats de la gestion, quand on voit le taux de chômage et quand on voit comment tout cela est géré, la gestion est bonne. Ouais. Je regarde ce qui est un peu similaire et je vois que l'État gère beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien, pour beaucoup plus cher et beaucoup plus de déficit. Et donc, nous prenons aujourd'hui nos responsabilités en gérant ce système. Et on est en train de nous dire, non, maintenant, c'est l'État qui va prendre la main.
Mais alors, attendez, il y a quelque chose qui est bizarre. Vous dites ça, et en même temps, on voit bien qu'il y a des textes qui sortent. Alors, je sais bien que le patronat est divisé, mais c'est très intéressant. Il y a aujourd'hui une partie du patronat qui dit qu'il faut désengager du paritarisme. Manifestement, il y a une partie qui dit, nous, on ne joue plus avec ça. Enfin, on lit des textes.
Oui, c'est
assez curieux. Alors, ils poursuivent quoi comme but? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, après tout, l'UNEDIC, c'est depuis 58. Comme vous dites très bien, avec des hauts et des basses.
C'est la théorie qui voudrait que l'entreprise est totalement hors sol et que laissez-nous faire, nous mettez pas de loi, nous mettez pas de réglementation et vous verrez ce que vous verrez. Nous l'avons vu. Je rappellerai juste que dans notre pays, à la suite de la loi Le Chapelier, en 1791, on a connu, l'entreprise a pu tout faire, tout. Ouais. Les syndicats étaient interdits, les paysans n'avaient pas le droit de se réunir pour faire valoir leurs droits. C'était juste le libre contrat, c'est-à-dire que la théorie, c'est chacun est libre de contracter, vous acceptez de signer un papier, et ben c'est bon, tout est ouvert. Ça veut dire que celui, par exemple, qui peut donner du travail à celui qui a besoin de travailler pour vivre et pour survivre, il peut tout imposer à l'autre, on l'a connu dans notre histoire. L'entreprise n'est pas hors sol. L'entreprise, elle bénéficie d'abord, en France, du travail des générations précédentes. Si une entreprise se développe aujourd'hui dans notre pays, c'est sans doute parce qu'il y a de l'intelligence par le chef d'entreprise, par ses cadres, sans doute qu'il y a du financement, mais vous mettez la même intelligence de la même personne à naître au fin fond du Burkina Faso, eh bien il n'aura pas le développement qu'il peut avoir grâce au travail des générations en France. Et donc les entreprises sont redevables. Elles sont redevables d'avoir un système scolaire, donc d'avoir des gens qui sortent éduqués. Donc en étant éduqués, qui peuvent travailler.
Du politique, entre parenthèses. C'est pas l'entreprise qui le fait, ça c'est du politique.
Oui, mais quand l'entreprise nous dit « laissez-nous faire tout seul, nous on est hors sol », ça veut dire qu'elle nie le fait qu'elle n'est pas du tout hors sol, mais qu'elle bénéficie.
Mais alors,
De la société, des travaux des uns des autres, des générations précédentes et de tous les efforts de la communauté nationale.
Mais est-ce qu'il n'y a pas...
Les mêmes entreprises, excusez-moi Philippe Arondel, je ne les entends pas dire, et d'ailleurs, vous nous coupez toutes les subventions que vous nous donnez.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi derrière dans la tête d'une partie des gens qui prônent finalement la fin, l'extinction du paritarisme? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que dans le fond, avec un État qu'on contrôlerait un peu, finalement, on pourrait se débrouiller mieux que face à des partenaires sociaux? Parce que dans le fond, quand le gouvernement actuel fait des ordonnances sur le marché, pour la question du droit du travail, j'entends pas beaucoup un certain nombre de ces gens-là dire que c'est de l'étatisme. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
ils sont tout
sûr
à fait d'accord pour qu'on passe des ordonnances, qui sont d'ailleurs parfaitement légales. D'ailleurs, c'est pas la question.
Mais nous avons des pays.
Vous voyez ce que je veux dire?
Nous avons des pays où, effectivement.
Mais je parle d'une partie du patronat qui se dit, après tout, si on peut nous repasser des lois favorables, autant que ça fasse l'État.
Mais il y a des pays qui fonctionnent comme cela. Moi, j'en connais un certain nombre. Ça s'appelle la Chine populaire, ça s'appelle le Vietnam.
Oui.
C'est-à-dire que sont étroitement liés au pouvoir, le pouvoir politique et le pouvoir financier. Il n'y a pas de corps intermédiaires, il n'y a pas de paritarisme, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas ceux qui sont attachés à la doctrine sociale chrétienne... c'est-à-dire ces corps intermédiaires qui s'appellent la famille, qui s'appellent l'entreprise, qui s'appellent les organisations syndicales, qui permettent de réguler les choses entre l'État et la personne. Quand vous supprimez les régulations entre l'État et la personne, eh bien ça s'appelle juste la dictature, parce que le plus fort, qui s'appelle l'État, peut tout imposer à la personne qui se trouve totalement isolée. Eh bien cette démarche d'un certain nombre de courants ultralibéraux, c'est une démarche totalitaire.
Là, en l'occurrence, ce qui est assez, ce que vous dites, c'est un peu curieux, qui peut paraître contradictoire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en l'occurrence, ça passe par l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que généralement, l'ultralibéralisme est opposé à l'État.
Enfin, absolument pas. L'ultralibéralisme s'entend très bien avec l'État quand c'est l'ultralibéralisme qui contrôle l'État. Mais les deux, l'ultralibéralisme comme le socialisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre la personne et l'autorité de l'État, il n'y a plus rien.
D'accord.
Et donc, on impose tout à la personne, on impose tout à la collectivité. C'est pour ça qu'il faut des corps intermédiaires pour réguler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir représenter. Et c'est ce que nous avons bâti. Et quand nous l'avons bâti, notre système, en fait, a bien fonctionné.
C'est des contre-pouvoirs, c'est ça que vous voulez dire.
Ce sont des contre-pouvoirs nécessaires, mais surtout, ce sont des contre-pouvoirs. Mais ce sont aussi pas que des contre-pouvoirs, ce sont aussi des forces de proposition.
Oui.
C'est le principe de subsidiarité, c'est laisser à chacun...
Ouais.
Personnellement et au groupe, son espace de responsabilité à son niveau. Eh bien, il est normal qu'au niveau de l'entreprise, et que ce soit les entreprises dans toutes leurs composantes, les dirigeants, les représentants des actionnaires et les représentants des salariés,
et maintenant, peut-être les ONG, les gens qui s'occupent d'environnement, vous voyez, c'est ça l'objet social élargi.
Parce qu'il y a le bien commun qui s'occupe prioritairement des problèmes de l'entreprise et qui prennent les décisions. Eh bien, la gestion du chômage, il est normal que ce soit ceux qui s'occupent de l'emploi qui gèrent le chômage. J'ai plus confiance dans ceux qui sont au quotidien dans les problèmes d'emploi qu'avec un État qui est bien au-dessus et qui, parfois, est totalement à côté. Enfin, vous nous parlez de la loi PAC, je vois que dans les mesures essentielles de la loi PAC, il y a la durée de réduction des soldes. Vous voyez comment l'État mélange tout. Le chômage, la durée de réduction des soldes. Enfin, c'est absolument pas le même sujet. Oui. Il y a des priorités. Mmh. Eh bien, il me semble que les priorités, c'est l'emploi et que là, l'ensemble des mesures que nous connaissons aujourd'hui ne répond pas à ce besoin. On ne peut pas traiter de l'emploi en France si on ne traite pas de la concurrence déloyale que nous subissons au sein même de l'Union européenne et dans le cadre de la mondialisation.
Allez, on va poursuivre cette discussion, d'avoir une petite pause. Allez, Mireille, fermez jusqu'à lundi.
Toute la semaine, enfermée dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ce n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche d'aller retrouver Bibi. On a mis sur la porte avis, avis, aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi. Lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte avis, aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors, aujourd'hui avec nous en direct, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Alors, Joseph Touvenel, sur cette question qu'on vient d'aborder du paritarisme, elle est fondamentale. Mais avant qu'on en reparle avec ce qui se passe aujourd'hui avec le problème des cotisations, un mot quand même très rapide sur votre position sur la négociation qui va s'ouvrir. Il y a deux points, la dégressivité et le bonus malus. Alors dégressivité, il y a déjà une polémique absolument incroyable qui naît. Vous êtes contre, je suppose.
D'abord la dégressivité, elle existe. C'est-à-dire que celui qui arrive au chômage, il ne touche pas ce qu'il gagnait. Donc, elle est là, la dégressivité.
D'accord.
Ensuite, le chômage n'est pas éternel. Sinon, on l'aurait remarqué.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête.
Oui.
Et donc, au lieu de nous dire, on va continuer à demander des efforts à ceux qui ne peuvent pas, parce que quand il faut que je gère un budget familial, que le chômage arrive, c'est-à-dire qu'il y a une perte de revenus considérable qui arrive, comment je fais ? Et si on veut aggraver cette perte de revenus, ça, c'est une vision de l'esprit et théorique, c'est pas une vision humaine sur la réalité humaine. Il y a des charges incontournables, des charges d'éducation pour les enfants, des charges de loyer ou de remboursement de prêt. Et c'est pas avec la dégressivité que je peux répondre à ces charges. C'est-à-dire que le risque, il est simple, je crée de nouveaux pauvres.
Oui, c'est ça, voilà, la paupérisation.
Alors, est-ce que si on me disait au chômage, je touche exactement la même chose que quand je suis en activité, et ça ne s'arrête pas tant que je n'ai pas retrouvé un emploi, je dirais, oui, là, il y a un problème.
Oui. Mais ce qui n'est pas le cas.
Ben oui, la dégressivité, on l'a.
D'accord. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on évoque, d'ailleurs, de façon mezzo-voce, une nouvelle indemnisation pour la pauvreté des gens qui sont au chômage, qui sont seniors notamment. On évoque ça. Vous avez entendu parler de ça comme moi. On dit, oui, on pourrait peut-être créer une nouvelle allocation, effectivement, pour ceux qui n'arrivent pas à retrouver, ce qui est quand même bon.
Et l'allocation au chômage est là. Ce qu'il faut faire de façon plus concrète, c'est accompagner les demandeurs d'emploi, les chômeurs indemnisés. Je rappellerai qu'il y a aussi quelques millions de personnes qui sont sans emploi et non indemnisées.
Oui.
Il faut accompagner ces personnes vers le retour à l'emploi. Et ça, ça demande un effort considérable, mais très pratico-pratique. Oui. Je ne suis plus dans la théorie où je dis...
Dans l'accompagnement,
voilà, ça va être dégressif, et puis voilà, j'ai mis la mesure en place et on passe à autre chose. Ouais. Non, ça veut dire un accompagnement personnalisé, humain et efficace.
Alors, bonus-malus, oui ou non, parce qu'il semblerait, d'après les échos qu'on trouve dans la presse, que ça aurait pratiquement disparu dans le débat, qu'on se demande s'il va y avoir un bonus-malus ou pas.
On nous parle des bonus-malus.
Oui, ce que je veux dire, donc après nous l'avoir dit, on dirait
bien. Un bon bonus-malus, c'est celui sur les CDD.
Voilà, oui, bien sûr, les contrats courts. Absolument,
les contrats courts. Pourquoi il faut mettre un malus sur les contrats courts ? Alors évidemment, on ne parle pas de bon sens, style les vendanges avec un CDD. On parle bien des postes permanents qui sont occupés par des travailleurs précaires. Par exemple, vous voyez un certain nombre d'entreprises avec, il y a un accueil standard, c'est un poste permanent sur lequel on fait tourner des CDD. Et pour la responsabilité de l'État, je rappellerai que la poste se fait prendre périodiquement avec des facteurs qui sont en CDD alors qu'on manque de facteurs.
Donc, ce qui d'ailleurs coûte très cher à l'UNEDIC d'ailleurs,
comme
de
ça
faire
coûte
tourner.
Très cher, voilà, ça, comme ça, problème, ça coûte très cher à l'UNEDIC et comme ça coûte très cher à la collectivité, eh bien il est normal là, me semble-t-il, que les entreprises qui utilisent à mauvais droit les CDD paye plus parce qu'elle coûte plus à la collectivité.
Ouais. Alors, il paraît d'ailleurs, entre parenthèses, que ça existe dans certains États américains.
Oui, bien sûr.
Et que ça marche pas si mal que ça. Bon, voilà. Alors, citer les Américains comme un exemple social peut paraître curieux, mais enfin, il paraît.
Non, parce que les États-Unis sont plus complexes qu'on vous en donne, et les réglementations peuvent absolument varier d'un État à l'autre.
Alors, Joseph Toumenel, il y a un problème pour ceux qui nous écoutent, ils le savent. Il y a eu un choc, c'est-à-dire qu'il y a. Je dirais qu'on a repassé le rabot une nouvelle fois sur un certain nombre de prestations. C'est à la fois pour les déficits, c'est à mon avis derrière aussi pour autre chose. Mais prenons d'abord cette question du rabot, c'est les retraités. Alors on sait qu'il y aura des augmentations de 0,3 alors que l'inflation oscille entre 1,7 et 2,3. Alors imaginez ce que c'est qu'on est simplement revalorisé de 0,3 par rapport à 2%. Chacun fait sa calculette, prend sa calculette et c'est assez énorme. Il y a la même chose pour les allocations familiales. Les APL, c'est-à-dire qu'on a décidé de sous-indexer. Alors, on dit transitoirement, on annonce pour 2 ans, mais il est probable que ça va durer.
Philippe Arnaud va parler en français simple. On a décidé de baisser. Parce que quand il y a une prestation qui est donnée et que je cesse de l'indexer sur l'inflation, ça s'appelle une baisse. C'est une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités, c'est une baisse de pouvoir d'achat pour les familles.
Vous savez très bien que le salaire, la pension nominale, elle va augmenter de 0,3. Vous voyez ce que je veux dire ?
Par rapport à une inflation qui est prévue à 1,7 ou 1,9, on voit très bien que la perte est considérable. Donc, arrêtons de faire de la com. Comme j'ai entendu un ministre de l'économie nous dire qu'il y avait un maintien, c'est pas un maintien, c'est une baisse.
Absolument.
C'est une baisse qui est importante. Qui est même considérable, notamment pour des retraités qui ne sont pas forcément les plus aisés, où on peut mesurer une baisse qui peut aller de 400 euros dans l'année jusqu'à 1600, 1700 euros. Ce n'est pas rien parce que le retraité, il n'aura pas d'augmentation de salaire. Hein. Ouais. Et les retraités, ils font leur budget et ils vivent avec leur budget. Et souvent, d'ailleurs, ils aident aussi des enfants ou des petits-enfants. Ouais. Et c'est tout ça qu'on est en train de désorganiser. le maintien du niveau par rapport à l'inflation pour les retraites est juste un problème de justice et de bonne gestion. Et vous constaterez, mais je crois que vous m'en avez dit deux mots tout à l'heure, Philippe Arondel, à juste titre, c'est que les retraités sont aussi des gens qui consomment.
Oui, bah oui.
Et quand on baisse leurs revenus de cette façon, eh bien, ils vont moins consommer.
Ouais, ouais.
Et comme la France a une économie qui vit beaucoup de la consommation,
oui,
on commence à le mesurer dans les chiffres.
Ouais, ouais.
Ça se passe mal pour l'économie nationale, parce qu'en plus, le retraité a plus tendance que d'autres parties de la population à consommer local et à consommer national.
Ouais. Alors, vous disiez pour la consommation, la structure du PIB, de la croissance, le produit intérieur brut, c'est 60%, ça pèse en France, contre 40% en Allemagne. Donc c'est énorme, et d'une certaine façon, il y a un risque de chômage accru. D'une certaine
oui, bien
manière,
sûr.
On peut s'en
bien
tromper
sûr.
Beaucoup, on peut penser que bon, sur un certain nombre de secteurs où les seniors, comme on dit, sont très actifs, il y aura sans doute un problème.
Et pour les mêmes raisons, il y a les familles qui sont touchées. C'est, encore une fois, une attaque contre la politique familiale. Alors, je sais bien que c'est pas ce gouvernement. C'est, en gros, tous les gouvernements successifs
oui.
depuis l'ère Giscard.
Oui.
Ça a commencé là.
Oui.
Est-ce qu'on fait le choix d'une France vieillissante avec beaucoup de personnes âgées dans la pauvreté ou à la limite de la pauvreté? Ou est-ce qu'on fait un choix d'un pays qui fait confiance en l'avenir, confiance à la jeunesse, et du coup qui investit dans les familles,
ouais.
Aujourd'hui, nous faisons les choix contraires.
Alors, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose? Je ne veux pas du tout dire que c'est un complot, loin de moi l'idée. J'emploie le mot complot, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une idée un peu cachée derrière tout ça? Parce qu'il n'y a pas de débat public. On peut avoir un débat public sur ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on supprime depuis des années, c'est le début des années 90, on supprime par-ci par-là tout le temps des cotisations, partout. On fait des baisses de charges pour créer de l'emploi ou pour maintenir l'emploi. Notamment, on cible les baisses de charges, notamment autour du SMIC, ce qui crée, à mon avis, d'ailleurs, plus de pauvreté qu'autre chose, d'ailleurs. Enfin, ça, on peut avoir un grand débat. Mais alors, est-ce que derrière tout ça, au bout du bout, on ne va pas vider, dans le fond, le paritarisme et l'État-providence à la française de toute réalité? Parce que quand il n'y aura plus pratiquement de cotisations, et qu'en plus c'est la CSG qui finance de plus en plus notre modèle, on sera arrivé à un modèle en grande partie fiscalisé. Alors on peut être pour, on peut être contre, c'est un autre débat. Mais on ne nous le dit pas. On ne dit pas du tout, on ne le dit pas. C'est ça qui est assez...
D'abord, la réalité du débat n'existe pas, vous avez raison, et il serait normal d'en débattre. Mais en plus, vous noterez quelque chose, c'est que... On nous dit baisse de charge, et il y a des baisses de charges, très bien, mais est-ce que ça correspond à une baisse du prélèvement fiscal global? Eh bien non. Je vois que la baisse de charges correspond plutôt à une augmentation
oui.
du prélèvement général. C'est-à-dire que,
bah oui, mais...
pour une raison simple qu'on indiquait tout à l'heure, c'est que quand c'est géré par les praticiens, c'est ouais. mieux géré que par l'État. Dans bien des cas, l'État a son rôle aussi. Mais pour ce qui est du domaine des entreprises, regardez par exemple sur le 1% logement.
Ouais.
Le 1% logement, l'État a mis la main dessus. Et bien maintenant, depuis que l'État a mis la main dessus, on construit bien moins de logements que quand on avait laissé les entreprises gérer le 1% logement qui était pour les salariés.
Ouais.
Mais c'était des constructions de logements. L'État a mis la main dessus et l'État a détourné de l'argent pour faire bien autre chose.
Ouais.
Le risque, il est là. Permanent. C'est quand vous avez ce qui est appelé une charge identifiée,
oui.
vous pouvez vérifier si elle sert, ce pourquoi on paye. Et si les personnes qui payent à juste titre. Et puis, je constate que les prélèvements obligatoires ne cessent d'augmenter, prélèvement fiscal considérable en
oui,
France,
mais...
et dans le même temps, sur l'impôt sur le revenu, c'est moins de la moitié de la
ouais,
population
ouais.
qui participe à ce qui est normal, participer au financement des biens collectifs
mais
du pays. Chacun devrait participer, évidemment, à
oui.
hauteur de ses revenus. Je ne parle pas des plus pauvres.
Oui.
On a un vrai problème fiscal dans notre pays où vous apercevez que, d'un côté, les plus riches
oui.
arrivent à éviter la charge de l'impôt sur le revenu.
Oui.
Et des gens qui gagnent modestement leur vie sont surimposés.
Oui.
C'est-à-dire que la classe moyenne aujourd'hui est
oui.
en train de disparaître
oui.
et de s'appauvrir, et un pays sans classe moyenne, c'est un pays qui devient de plus en plus pauvre.
Est-ce que ça ne détruit pas, assez grave ce que je vais dire, la légitimité du pacte social issu de l'après-guerre? Parce que dans le fond, le pacte social ou compromis social issu de l'après-guerre, comme on dit fordiste, il repose sur le fait que tout le monde y participe selon ses moyens, reçoit selon ses besoins,
donc,
c'est le principe, et qu'il faut avoir un retour. Si vous n'avez plus de retour, les gens vont commencer à se dire, et heureusement qu'on n'a pas de théoriciens ultralibéraux en France trop forts, ils se disent, ben après tout, ce système ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un risque de délégitimisation de notre système.
C'est pas le pacte social qui ne fonctionne pas, c'est le fait qu'on ne respecte plus ce pacte social. Le dysfonctionnement, il est là. Le pacte social nous a prouvé qu'il était efficace et qu'il fonctionnait bien. Mais là, on le vide de son contenu.
Oui, oui.
On le vide de son contenu, sans doute parce qu'il y a une montée en charge dans toute notre société de l'individualisme et de l'égoïsme, y compris du côté d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont cette vision de l'entreprise en disant « nous sommes seuls au monde, laissez-nous faire ». Bien non, ils ne sont pas seuls au monde, ils font partie d'une collectivité. Laissez-nous faire, ça veut dire aussi « laissez-nous polluer » par exemple. Eh bien non, tout le monde constatera qu'on ne peut pas laisser une entreprise polluer, qu'il faut bien que là, il y a le rôle de l'État, intervienne. Qu'il soit le régulateur. L'État doit être régulateur, l'État doit avoir une perspective, l'État doit pouvoir aider dans le cadre de cette perspective. Mais quand on est en train de supprimer, par exemple, quand l'entreprise ne cotise plus pour la politique familiale, c'est une aberration. Parce que l'entreprise, d'abord, c'est son rôle aussi, parce qu'elle bénéficie de la politique familiale. Ouais. Quand on me dit non, c'est faux. Les entreprises bénéficient parce qu'ils vont avoir d'abord des jeunes, ils vont avoir du dynamisme, ils vont avoir des marchés parce que ça, il y aura de la consommation.
Ouais.
L'entreprise bénéficie des mesures nationales et bénéficie une famille qui se développe de façon harmonieuse. C'est un gros bénéfice pour l'entreprise, parce que ça fait des travailleurs qui sont aussi des travailleurs qui travailleront harmonieusement. Détruire la famille, c'est détruire aussi l'économie et aussi détruire l'entreprise, c'est détruire l'ensemble de la société. C'est ce que nous sommes en train de joyeusement faire en ce moment.
Alors, on parle de notre modèle social et notamment du paritarisme. Alors, lire une phrase quand même, j'ai découvert ça dans un éditorial de Challenge, le journal, je cite rarement les journaux, mais enfin, un journal économique tout à fait passionnant qui paraît chaque semaine. Et voilà, c'est Denis Kessler. Denis Kessler qui a une certaine influence dans le patronat. Une influence. Bon, il se cache pas d'être très libéral, c'est moins qu'on puisse dire, après avoir été dans sa jeunesse très exactement le contraire. Mais enfin, bon, ça arrive à d'autres personnes. Et il cite le président de la République, le 9 juillet, qui dit, alors une phrase qui peut paraître un peu bizarre, mais qui dans le fond nous dit tout. Il n'y a plus un droit au chômage. Au sens où on l'entendait classiquement, il veut dire avant, assurantiel je suppose, il y a un droit qui lui est offert par la société, alors ça je me demande bien ce que ça veut dire, mais dont on ne s'est pas garanti l'accès à titre individuel, puisque tous les contribuables l'ont financé. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le fond par rapport à ça? Il nous dit voilà, bon maintenant, c'est plus la cotisation qui finance, c'est plus assurantiel, on est déjà fiscalisé, allons-y jusqu'au bout. Alors, on a envie de lui dire, on a le droit de vouloir fiscaliser comme dans les pays nordiques. Mais qu'on nous le dise clairement. Parce que cette phrase est à la fois claire si on la décrit, elle n'est pas claire.
Première chose, d'abord, elle est fausse. Il n'y a jamais eu un droit au chômage. Oui. Pour pouvoir bénéficier des allocations au chômage, il faut avoir cotisé.
Travaillé.
Et pour cotiser, il faut avoir travaillé.
Voilà,
donc, il n'y a pas un droit qui est comme ça ouvert.
Voilà.
J'ai le droit au chômage, à vie, on a l'impression, voilà. Ça, c'est faux.
Oui.
Ensuite, si je cotise et que c'est géré par ceux qui s'occupent de collecter la cotisation, nous avons une traçabilité sur l'utilisation qui n'existe plus dans le système Kessler. Mais le système Kessler, qui est plutôt un ultralibéral, rejoint les origines idéologiques de M. Kessler, qui étaient exactement les mêmes origines que M. Barroso, cet ultralibéral qui a gouverné l'Europe. Tous les deux sont d'anciens maoïstes. Eh bien, on retrouve dedans cette erreur de perspective qu'on considère non pas des personnes avec une collectivité qui est organisée dans le cadre de la subsidiarité avec les corps intermédiaires, mais je n'ai que des individus face à des masses, à un décideur qui s'appelle l'État. Et aujourd'hui, les maoïstes nous donnent un très bel exemple d'État ultralibéral, qu'est la Chine populaire.
Voilà.
Eh bien, nous sommes exactement là. On fait disparaître l'échelle des responsabilités en disant c'est l'État qui paye. D'abord, quand c'est pas l'État qui paye, ce sont les citoyens.
De toute façon,
mais il est bien de pouvoir identifier. Et donc, c'est pour ça que nous sommes, nous, attachés à la cotisation qui est versée pour telle ou telle raison, ce qui permet de vérifier si c'est utilisé à bon escient ou non.
Joseph Touvenel, avant qu'on fasse une deuxième petite pause, simplement, la cotisation est en train de disparaître. en partie.
Oui,
à certains niveaux salariaux, on n'a plus de cotisations. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, au SMIC, je ne sais pas s'il en reste encore un peu.
Alors, il y a, là, c'est le problème du coût du travail.
Ben voilà, c'est ça. Voilà.
Effectivement, au niveau du salaire minimum, il y a très peu de cotisations qui soient versées.
Oui, c'est ça. Alors donc, ça veut dire que le coût du travail en France, dans un pays développé comme le nôtre, en gros, on va bientôt pouvoir embaucher au SMIC net, c'est 1 000 euros, quoi, 1 euros 50, c'est pas 54, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, à peu près.
Hein. Oui.
Voilà, donc on va pouvoir embaucher dans un pays riche à des niveaux...
Surtout, nous sommes dans une course insensé parce qu'on ne veut pas s'attaquer au problème de la concurrence déloyale, comme je le disais tout à l'heure, au niveau européen et au niveau de la mondialisation. Allez, oui. La solution, elle est là. Le reste, c'est du bricolage.
Voilà, bon, on va justement y revenir. Ennio Morricone, mon nom est personne.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Philippe Arondel.
Alors aujourd'hui avec nous, Joseph Tounel, vice-président de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Mon nom est personne, je ne veux pas forcément filer la métaphore comme ça, mais aujourd'hui, dans la mondialisation ou la globalisation sauvage, je ne sais pas comment on peut dire, les Américains disent globalisation, voilà. Nous on dit mondialisation, mais enfin... Peut-être que le mot globalisation dans le monde global, le village global néolibéral, finalement, beaucoup d'acteurs sociaux, notamment les salariés, ont l'impression d'être pas grand-chose, d'être ballottés selon, au gré des actionnaires. Il y avait dans le journal aujourd'hui, dimanche dernier, un petit village dans les Vosges, voilà, et puis on délocalise le tiers des salariés, n'est-ce pas, parce que le coût du travail est très très élevé. Il délocalise trois secteurs, trois ateliers en Pologne, et le président du comité d'établissement ou d'entreprise explique que voilà, un ouvrier français coûte 26 euros contre 7 euros pour un Polonais. On a envie de dire, alors, qu'est-ce que c'est que le coût pour malheureusement un Roumain ou un Bulgare. Il y a un vrai problème, Joseph Tounel, parce qu'on voit bien que le populisme se nourrit de cette défiance à l'égard de la mondialisation, n'est-ce pas ? Alors, après, les solutions qu'ils préconisent, c'est un autre débat, et qu'on a l'impression que là, en l'occurrence, nous sommes en France, la France fait partie de l'Europe, enfin jusqu'à présent, je crois, et qu'on a l'impression que l'Europe est complètement incapable de gérer cette question, notamment de la concurrence déloyale, à travers des coûts du travail. Là, il y a un problème. On se dit, il y a un très gros problème, en sachant très bien qu'on rattrape, on va pas du tout être compétitif avec un certain nombre de pays ex-pays de l'Est qui ont des niveaux très très bas. Il ne s'agit pas d'être compétitif totalement, mais de trouver une solution, peut-être, je ne sais pas. Une solution. On parle de l'Europe sociale depuis des décennies, je ne sais pas.
L'Europe ne s'est pas véritablement intéressée au problème, voilà. Ou plutôt... Ceux qui... Moi, je suis un Européen convaincu, mais je ne suis pas du tout un Bruxellois. Il ne faut pas confondre les choses. On peut penser que l'Europe est, dans le cadre de la mondialisation, le lieu et la surface suffisante pour faire poids face à ces monstres que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis. Mais ce que nous a construit Bruxelles depuis des années, ce n'est pas du tout cet outil qui peut répondre, en tout cas au niveau de la finance et au niveau de l'économie. Ça ne répond pas du tout. On nous a mis dans une compétition effroyable. Dont les conséquences sont subies, y compris au sein de l'Union européenne. Je travaille beaucoup avec nos amis polonais, bulgares, roumains. Par exemple, en Bulgarie, savez-vous qu'il y a 5 millions de roumains formés, 5 millions de roumains formés, c'est-à-dire des ingénieurs, des médecins, mais également des ouvriers spécialisés, pour lesquels la Roumanie a fait l'effort de financer des études et des formations, qui travaillent en dehors de la Roumanie. C'est-à-dire que ils vont travailler avec des conditions sociales plus basses que les nôtres, venir en concurrence directe, y compris sur nos territoires, avec nos conditions de salaire et nos conditions sociales, et dans le même temps, ils vident leur pays de leur substance, empêchant ces pays de se développer. Et la présidente du comité des femmes du syndicat frère Cartel Alpha en Roumanie me disait « Tu n'imagines pas le drame pour ces enfants qui n'ont plus leurs parents ?» Parce qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui n'ont plus leurs parents en Roumanie, en Bulgarie, parce que leurs parents travaillent ailleurs en Europe. C'est un drame fabuleux, alors que on doit pouvoir petit à petit remonter les conditions à la hausse. Mais pour remonter les conditions sociales à la hausse, il faut que je m'intéresse à d'autres sujets, par exemple à la fiscalité. Et donc, si je n'essaye pas d'équilibrer la fiscalité, je n'y arriverai pas non plus. En fait, il y a une volonté ultralibérale qui a été de mettre en compétition les salariés entre eux pour faire plus de profits. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir. Au lieu d'essayer de relever les choses petit à petit et progressivement, la volonté a été de considérer pour certains qu'en France, on était trop bien payé, trop bien traité, comme dans d'autres pays de l'Europe, et qu'on allait baisser tout ça, et que les centres de profit, eux, pourraient continuer à faire beaucoup plus de profit en déplaçant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et il n'y a plus d'humanité, les gens ne sont plus... ils ne sont que des outils que l'on balade d'un pays à l'autre, ou d'un intérêt à l'autre, et ce ne sont plus des personnes travaillant.
Je ne vais pas faire l'apologie de la dévaluation monétaire, mais aujourd'hui, il y a des dévaluations. C'est par le salaire. L'ajustement structurel se fait
bien sûr
par les salariés.
Par les salariés.
On ne peut pas le faire autrement, d'une certaine manière, on le fait sur les salariés.
Et donc, il faut traiter la concurrence déloyale. On ne demande pas qu'il y ait les mêmes réglementations, mêmes taxes partout. D'ailleurs, il y a trop de réglementations en France. Donc, ce serait pas bon de le... Mais il faut prendre le social, il faut prendre le fiscal, et il faut prendre l'environnemental. Et regarder s'il n'y a pas une concurrence déloyale. Eh bien, elle existe. Les Pays-Bas, par exemple, comme le Luxembourg, nous font une concurrence déloyale en matière fiscale.
Oui,
c'est clair, c'est net. Et ça nous tue des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. La concurrence environnementale, nous l'avons avec d'autres pays d'Europe qui ne respectent pas des règles qui... chez nous, sont des règles de bon sens. C'est comme ça qu'on peut redresser les choses. Et puis alors, si j'ouvre dans la mondialisation, nous acceptons de commercer avec des gens qui exploitent de façon éhontée des hommes, des femmes, des enfants. Eh bien ça, c'est moralement inacceptable et c'est économiquement suicidaire.
Alors ça m'amène à mon deuxième sujet, parce que on parlait de là, c'était intra-européen. Mais l'Europe est dans la mondialisation. Et là aussi, peut-être qu'une certaine Europe institutionnelle, je suis gentil, fait preuve d'une grande naïveté. On apprenait récemment que depuis le 3 septembre de cette année, les panneaux et cellules solaires de l'Empire du Milieu de la Chine peuvent débarquer librement. Voilà. C'était contrôlé. On peut débarquer librement. Alors évidemment, les importateurs et ceux qui posent les panneaux sont très contents, n'est-ce pas ? Ils disent que ça va créer plein d'emplois. Sauf que effectivement, bah oui, le journal écrit, doit bien écrire à la fin, mais ça liquide complètement le secteur industriel qui aurait pu se créer sur les panneaux solaires au moment où c'est une industrie totalement d'avenir. Donc on est dans deux. D'un côté, on crée sans doute des emplois et puis on plaît aux consommateurs parce que c'est moins cher. Et d'autre côté, on liquide une industrie qui sans doute était une industrie d'avenir. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête, je veux dire ?
Philippe Randel, ce n'est pas nouveau.
Non, je n'ai pas dit que c'était nouveau.
La recherche et l'innovation sur les panneaux solaires, ça a été fait chez nous, dans les pays industrialisés. Et c'est la Chine qui s'en est emparée et qui nous a pris nos brevets, ouais, et qui nous revend notre matériel. Alors, est-ce qu'on va le reprocher à la Chine ? Non, mais... surtout le reprocher à nous-mêmes qui ne savons pas défendre nos intérêts stratégiques. Ouais. Parce que derrière, certains groupes qui représentent peu en termes de personnes font de très très gros profits. C'est tout le problème et c'est tout l'enjeu. Et si on les laisse faire, eh bien, nous avons cette situation où il est quand même invraisemblable de voir que tous les jours, nous finançons une dictature, qui est une dictature communiste ultralibérale, à notre détriment, puisque ensuite elle vient nous prendre des parts de marché. C'est pas la joie et le bonheur du peuple chinois.
Non.
Regardez bien comment la Chine évolue, avec une mainmise sur les esprits de plus en plus forte.
Oui.
Avec toujours des camps de concentration pour les prisonniers, des camps de prisonniers politiques.
Un contrôle numérique extraordinaire.
Un contrôle numérique et un contrôle qui est en train, par les caméras dans la rue, absolument, où on est en train de noter les citoyens.
Donner des points.
Et si vous avez...
Des mauvais points, enfin.
Voilà. C'est une société effroyable. Eh bien, nous sommes en train, ouais, de la financer. Et en la finançant, nous donnons de la force à cette société pour qu'elle envahisse le reste de la planète.
Ouais.
À la limite, on n'aurait qu'à s'en prendre qu'à nous.
Ouais.
Parce que c'est ce qui conduit tout ça, c'est juste l'envie du profit le plus rapide, ouais, possible.
Est-ce qu'on ne peut pas faire quand même un peu au plan européen? Parce que
on devrait.
Je ne vais pas dire de protectionnisme, c'est un gros mot, et en plus on peut débattre entre économistes. Mais est-ce qu'on pourrait
ce
pas faire...
Ce n'est pas un gros mot. Ça dépend ce qu'on met...
Moi j'en ai un autre, je vais vous le dire après. Parce que...
J'ai une famille. Je considère que mon devoir, c'est de protéger ma famille.
Oui.
Donc la protection, c'est quelque chose de bon sens. Chacun se protège. Quand vous allez dans une voiture, vous mettez une ceinture de sécurité, c'est pour vous protéger.
Ouais.
Le tout, c'est de ne pas être fermé. C'est de ne pas se recroqueviller sur soi-même. D'accord. Ouais. Donc qu'il y ait une liberté du commerce, très bien, avec des règles qui sont des règles qui doivent être à la fois des règles économiques et aussi des règles morales.
Mmh.
La liberté du commerce ne doit pas autoriser de faire travailler des gens dans des conditions abominables. Rappelez-vous le Rana Plaza, quand il s'est écroulé, on a découvert que travaillaient pour nos sociétés occidentales et pour des sociétés chinoises de grandes marques de textiles, travaillaient des femmes, des hommes et des enfants avec des salaires de misère dans des conditions épouvantables. Il a fallu qu'il y ait plusieurs milliers de morts pour qu'on s'en rende compte.
Mmh.
Et je vous rassure, ça continue et ça prospère.
Moi, je suis pas rassuré, mais bon.
Et c'est là où il faut mettre des ventes. C'est là où on doit dire, oui, il y a une protection. Il y a une protection normale de l'enfant. Il y a une protection normale du plus faible. Il y a une protection normale de l'ouvrier. Et d'ailleurs, si j'étais pas un protectionniste et je jouais pas protéger les salariés, je ne serais pas un syndicaliste.
Non, je disais le mot, parce que c'est un mot qui fait... Évidemment, qui est polémique. Moi, j'aime mieux employer le mot d'écluse sociale et environnementale. Vous voyez, le système des écluses. C'est merveilleux, le système des écluses à nos frontières. C'est-à-dire qu'on ne va pas bloquer tout.
Non, il n'y a pas à bloquer tout.
Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
On va de façon plutôt stratégique. Bon, il y a peut-être des...
Favorisons par la traçabilité sociale.
Oui, oui, oui.
Favorisons les entreprises, y compris de l'autre bout du monde, qui respectent les normes fondamentales du droit du travail.
Ouais.
Et donc... favorisons les échanges avec ces entreprises qui traitent correctement leurs salariés par rapport évidemment au niveau de vie du pays, au niveau social, au développement du pays, et ne commerçons pas avec les autres.
Ouais.
Et ça, c'est juste du courage politique, c'est pas autre chose, et c'est ce courage-là que devrait avoir l'Europe, d'autant plus que c'est nous qui achetons à la Chine, c'est pas la Chine qui nous achète.
Ouais, ouais.
Et donc, les Chinois savent... savent très bien discuter, ils sont pas idiots.
Ouais.
Et ils savent que quand ils nous donnent 10, nous on leur donne 90.
Oui.
Si on leur retire les 90, c'est eux les perdants, c'est pas nous.
Alors, il nous reste 2 minutes, Joseph Tounel. Alors déjà, tout ce qu'on vient de dire, vous êtes un syndicaliste, on a l'impression, alors je dis bien de l'extérieur, on a parfois l'impression que le syndicalisme, parce que sur ce que vous venez de dire, tout le monde peut être à peu près d'accord d'une certaine manière.
Ah, si tout le monde était d'accord, on le ferait.
Non, d'accord, non, mais ce que je veux dire, on a l'impression que le syndicalisme ne lance pas vraiment peut-être un certain nombre de campagnes sur ce sujet, qui pourraient être, beaucoup de Français, ceux qui nous écoutent, seraient d'accord. On a l'impression que, peut-être par rapport à il y a quelques années, on en parle peut-être un peu moins. On parle plus de l'Europe sociale, bon d'accord, elle se fait pas, mais on parle moins de moraliser la mondialisation. On a l'impression qu'il y a peut-être moins de...
Il y a peut-être un renoncement, oui, bien sûr.
Oui, on a l'impression, voilà.
Il y a peut-être un renoncement parce qu'on nous raconte tellement que la mondialisation, c'est forcément le bonheur. La mondialisation, c'est ni le bonheur ni le malheur. C'est ce que nous en faisons. Mmh. Et aujourd'hui, on fait le malheur d'un certain nombre de personnes, un certain nombre de familles, un certain nombre de peuples. Ce qui n'est pas nouveau.
Oui, bien sûr.
Regardons les choses. Et quand on avance sur le concret et que concrètement, on dit mais posons aussi des règles morales dans le cadre de l'économie mondiale, alors là, on nous regarde, mais sur un autre sujet, avons vu récemment en France le président d'un comité d'éthique nous dire qu'il ne savait pas ce qu'était l'éthique. Alors je comprends que
pourrait relancer ce débat qui...
Mais vous savez, j'en parle, Philippe Arnel, parce que c'est une vraie dérive de la société. Oui. Dans une société où on commence à accepter la marchandisation de l'enfant, certains nous disent qu'on peut commercer avec des êtres humains, il ne faut pas s'étonner que les salaires... Non, c'est la même chose.
Non, mais je sais bien, mais ça...
C'est exactement la même chose. Il n'y a pas... À un moment donné où on peut commercer, où on peut vendre et acheter de l'humain, l'être humain est infiniment respectable, quelle que soit sa condition, que soit son âge, que je sois un enfant ou un ouvrier, il a des droits élémentaires qui doivent être respectés. Le premier droit, c'est que nous sommes des personnes, pas des marchandises.
Et j'ajouterais que ça sera un autre débat quand vous revenez avec moi un autre jour. C'est aussi les statistiques européennes qui maintenant intègrent pour certains pays, notamment l'activité de la prostitution.
Oui, l'Angleterre nous est passée devant en intégrant les statistiques de la prostitution, du trafic d'armes et de la drogue.
Voilà.
Ce qui veut dire d'ailleurs si ces statistiques sont exactes, ils savent très exactement ce que rapporte la drogue, etc. C'est-à-dire que le drogué, le dealer rencontre à l'État, paye l'impôt, etc. Pipo et compagnie, mes amis.
Bon, très bien. Ben, merci sur cette conclusion. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pour ce beau débat. Eh bien, au revoir à tous, à très bientôt sur notre antenne. La semaine prochaine.